La nuit suivante, les nuages se dissipèrent, bousculés par le vent. En même temps, le thermomètre dégringola de 15 degrés à moins 5. Le gel pétrifia l'univers à l'extérieur. Assis près de la fenêtre de la chambre, le regard perdu sur le paysage matinal tout en scintillement, Paul entendait Misery la truie qui couinait et l'une des vaches qui mugissait dans la grange. Il entendait souvent les animaux. Leur présence sonore faisait tout autant partie de son environnement que le carillon de l'horloge du salon, mais jamais il n'avait entendu le cochon s'égosiller ainsi. Il lui semblait se souvenir des gémissements de la vache, mais il s'agissait d'un bruit horrible, car à cette époque, il était submergé par la douleur. C'était lors de la première fugue d'Annie, quand elle l'avait laissé sans son ovril. Il avait beau avoir été élevé dans la banlieue de Boston et avoir passé le plus clair de son existence à New York, il croyait savoir ce que signifiaient ces douloureux meuglements de vaches. L'une d'elles avait besoin d'être traite. L'autre non, apparemment. Sans doute le comportement erratique d'Annie en la matière avait-il contribué à la tarière. Et le cochon ? Affamé, rien de plus. Et ça suffisait. Les bêtes ne connaîtraient aucun soulagement aujourd'hui. Il doutait que Annie fût capable de revenir, même si elle le voulait. Cette partie du monde s'était transformée en une immense patinoire. Il se sentit légèrement surpris du degré de sympathie qu'il éprouvait pour les animaux et du degré de colère qu'il ressentait contre Annie, qui, dans l'arrogance de son égoïsme sans bornes, les laissait souffrir dans l'étable. Si vos animaux pouvaient parler, Annie, ils vous diraient qui est en réalité le sale oiseau, ici. Lui-même se sentit aussi bien que possible au cours de ses journées. Il mangeait les conserves, buvait l'eau qu'il prenait dans le nouveau pichet, avalait régulièrement ses médicaments et faisait la sieste chaque après-midi. L'histoire de Misery avec son amnésie et le lien de sang, sang particulièrement malsain, resté et pour cause, jusqu'ici insoupçonné, progressait régulièrement, s'orientant vers l'Afrique, où devait se passer la deuxième moitié du livre. L'ironie du sort voulait que cette femme l'eût contraint à écrire ce qui serait sans difficulté le meilleur récit de la série des Miséries. Yann et Geoffrey étaient partis pour Southampton afin d'armer un schooner appelé l'Orlai en vue du voyage. C'était sur le continent noir que Misery, qui ne cessait d'avoir des transes cataleptiques aux moments les moins opportuns, et qui évidemment, si jamais elle était de nouveau piquée par une abeille, même dans des années, mourrait en quelques instants, serait soit tuée, soit guérie. À 200 kilomètres à l'intérieur des terres par rapport à Lauston, un minuscule comptoir anglo-hollandais situé dans le dangereux croissant de la côte barbaresque, vivaient les Burkas, les indigènes les plus dangereux d'Afrique. On les connaissait parfois sous le nom d'hommes-abeilles. Rares étaient les Blancs revenus du pays des Burkas après s'y être aventurés. Mais ceux qui avaient réussi l'exploit rapportaient des récits fabuleux sur une tête de femme taillée dans la pierre d'une haute mesa en voie d'effritement, une figure impitoyable à la bouche grande ouverte avec un énorme rubis encastré dans son front de pierre. Une autre histoire courait, ce n'était qu'une rumeur, mais étrangement persistante, disant que dans le réseau de grottes qui s'étendait derrière le front de l'idole, on trouvait un essaim d'abeilles géantes albinos, protégeant dans un grouillement incessant leur reine, monstre gélatineux infiniment venimeux, doué d'une infinie magie. Pendant ces quelques journées, Il s'était diverti à parfaire ses agréables absurdités. Le soir, il restait tranquillement assis, écoutant les couinements du cochon, à imaginer comment il allait tuer le dragon femelle. Jouer à Sauras-tu, dans la vie réelle, était tout à fait différent que d'y jouer assis en tailleur, au milieu d'un cercle de gamins ou adultes, derrière sa machine à écrire, découvrit-il. Tant que ce n'était qu'un jeu, et même s'il gagnait sa vie avec, ce n'était tout de même qu'un jeu, on pouvait imaginer les choses les plus invraisemblables et les rendre crédibles, voir par exemple la parenté cachée qui unissait Misery Chastain à Charlotte Evelyn Hyde. Il avait fini par en faire des demi-sœurs. Misery devait plus tard découvrir son père, plus ou moins intégré à la tribu des hommes-abeilles. Dans la vie réelle, néanmoins, le pouvoir de provoquer ce genre de coïncidence était infiniment plus faible. Pourtant, Paul ne manquait pas d'essayer. Il y avait, par exemple, tous ces médicaments dans la salle de bain du rez-de-chaussée. Il devait bien exister un moyen de les utiliser pour l'assommer, non ? Ou pour la mettre au moins dans un tel état qu'il ait le temps de lui faire un sort. Le Novril, par exemple. Avec une dose suffisante de cette saloperie, il n'aurait même pas besoin de faire le boulot. Elle partirait toute seule, pour le grand voyage. Excellente idée, Paul. Je vais t'expliquer comment procéder. Tu n'as qu'à vider un bon paquet de ces gélules dans une pinte de crème glacée. Elle pensera qu'il s'agit de noisettes dans la pistache et engloutira le tout sans broncher. Non. Ça ne marcherait évidemment pas. Il ne pouvait pas davantage éventrer une douzaine de gélules et mélanger la poudre de la crème glacée qu'il aurait auparavant laissé se ramollir. Le Novril pris tout seul était abominablement amer. Il l'avait assez goûté pour le savoir. Un goût qu'elle reconnaîtrait immédiatement au milieu de la douceur attendue. Et malheur à toi, Polly. Malheur à Max. Dans une histoire, l'idée aurait tout à fait convenu. Dans la réalité, néanmoins, elle ne tenait tout simplement pas debout. Il n'était pas sûr qu'il aurait pris ce risque même si la poudre blanche des gélules n'avait pas eu le moindre goût. Ce n'était pas suffisamment sûr. Pas suffisamment sûr. Ce n'était pas d'un jeu, mais de sa vie qu'il s'agissait. D'autres idées lui passèrent par la tête pour être rejetées encore plus vite. Parmi celles-ci, suspendre quelque chose, la machine à écrire lui vint immédiatement à l'esprit, au-dessus de la porte, afin qu'elle soit tuée ou au moins assommée en entrant. Ou bien tendre un fil invisible entre deux marches pour qu'elle trébuche dessus. Mais dans un cas comme dans l'autre, le problème était le même que le coup du Novril dans la crème glacée. Aucun n'était suffisamment sûr. Il se trouva littéralement incapable d'imaginer ce qu'elle lui ferait au cas où elle découvrirait qu'il avait essayé de l'assassiner et échoué dans sa tentative. Comme la nuit tombait au cours de cette deuxième soirée, les couinements de Misery toujours aussi monotones, on aurait dit une porte au gond rouillé avec laquelle aurait joué le vent, Vache Allée numéro 1 s'arrêta brusquement de meugler. Paul se demanda avec une certaine anxiété si le pis de la malheureuse bête n'avait pas explosé, avec pour résultat une mort par hémorragie. Pendant un moment, son imagination s'y vive. Essaya de se représenter la vache gisant dans une mare où sang et lait se mélangeaient. Tableau qu'il chassa de son esprit aussi rapidement qu'il le put. Il se gourmanda lui-même, se traitant d'idiot. Les vaches ne mouraient pas ainsi. Mais la voix qui le sermonnait manquait de conviction. En fait, il n'en savait absolument rien. Et de toute façon, ce n'était pas la vache son problème, non ? Toutes ces idées mirobolantes reviennent à une chose. Tu veux la tuer au moyen d'un système commandé à distance sans avoir son sang sur les mains. Tu es comme un type qui n'aime rien tant qu'un steak bien saignant, mais qui ne pourrait tenir une heure dans un abattoir. Mais écoute-moi bien, Polly, et ne t'y trompe pas. Tu dois voir la réalité en face au moins une fois dans ta vie. Pas d'idées mirobolantes. Pas d'enjolivure. Bien vu ? Bien vu. Il fit rouler le fauteuil jusque dans la cuisine et ouvrit les tiroirs jusqu'à ce qu'il eût trouvé les couteaux. Il choisit la lame à découper la plus longue qu'il put trouver et revint dans sa chambre, n'oubliant pas d'effacer au passage les marques laissées par les capuchons de moyeu. La trace de ses allers et retours devenait de plus en plus nette néanmoins. M'en fiche. Qu'elle manque une fois de plus à les remarquer. Et elle n'aura plus jamais l'occasion de les voir. Il posa le couteau sur la table de nuit, se hissa sur le lit et glissa l'arme sous le matelas. Dès que Annie serait de retour, il lui demanderait un bon verre d'eau bien fraîche, et quand elle se pencherait sur lui pour le lui donner, il plongerait la lame dans sa gorge. Rien de mirobolant. Paul ferma les yeux et se laissa gagner par le sommeil, si bien que lorsque la Cherokee entra au ralenti dans l'allée, le lendemain à 4 heures du matin, moteur et lumière coupées, il ne broncha pas. Jusqu'à l'instant où la pointe de l'aiguille s'enfonça dans son bras et où il se réveilla pour voir son visage incliné sur lui, il ne s'aperçut pas de son retour. Il pensa tout d'abord qu'il était en train de rêver à son propre livre, que l'obscurité était ces ténèbres de songe qui régnaient dans les tunnels derrière l'énorme tête de pierre de la déesse abeille Burka, et que la piqûre était celle d'une abeille. Paul ? Il grommela quelque chose qui ne signifiait rien, ou qui signifiait simplement « Fichez-moi la paix, voix de mon rêve, un peu de silence. » Paul ? Ce n'était pas une voix de rêve, mais celle d'Annie. Il ouvrit péniblement les yeux. Oui, c'était bien elle. Et pendant un instant, sa panique ne fit que croître. Puis elle coula soudain de lui comme un liquide qui vient de franchir un bouchon dans une évacuation. Que diable ! Il se sentait complètement désorienté. Elle se tenait là, dans la pénombre, comme si elle n'était jamais partie, avec l'une de ses vieilles jupes de laine et son cardigan informe. Il vit la seringue dans sa main et comprit qu'il s'était agi d'une injection et non d'une piqûre quelconque. Qu'est-ce que cette cinglée ? Mais peu importe, cela revenait au même. La déesse l'a vue. Mais qu'est-ce qu'elle avait bien pu ? Le vent de panique voulut se remettre à souffler, et de nouveau il réussit à l'étouffer. Il ne ressentait rien d'autre qu'une sorte de surprise académique, mêlée d'une curiosité purement intellectuelle de savoir d'où elle venait et pourquoi elle arrivait maintenant. Il essaya de lever les mains, mais c'est à peine s'il réussit à les bouger. Il avait l'impression que des poids invisibles y étaient attachés. Elles retombèrent avec un petit bruit mou sur les draps. Peu importe ce qu'elle m'a balancé dans le sang. C'est comme le dernier mot qu'on écrit dans un livre. Fin. Même si ça se fait moins actuellement. Pas le temps. Aucune peur n'accompagnait cette idée. Au lieu de cela, il ressentait une sorte d'euphorie calme. Au moins, c'est elle de me faire passer en douceur. De rendre les choses. Ah, vous voici enfin ! S'exclama Annie, ajoutant avec de lourdes minauderies. Je vous vois, Paul, ses yeux bleus. Ne vous ai-je jamais dit que vous aviez de superbes yeux bleus ? Je suppose que d'autres femmes ont dû le faire, des femmes plus jolies que moi et moins timides pour exprimer leurs sentiments aussi. Revenu. venu en catimini dans la nuit pour me tuer. Piqûre d'abeille ou intramusculaire, pas de différence. Et balpeau pour le couteau sous le lit. Je ne suis plus maintenant que le énième dans le décompte des cadavres, qui jonche en nombre considérable l'itinéraire d'Annie. Et c'est avec un humour de plus en plus grinçant, au fur et à mesure que le gagnait l'engourdissement euphorique de la piqûre, qu'il ajouta « Tu parles d'une foutue Scheherazade que je fais. » Il pensa que le sommeil n'allait pas tarder à revenir, un sommeil définitif, mais non. Elle glissa alors la seringue dans la poche de sa jupe, puis s'assit sur le bord du lit, mais pas de la même façon que d'habitude. Installé au pied, il ne vit pendant un moment que son dos, solide et aussi impénétrable qu'un mur aveugle, tandis qu'elle se penchait comme pour vérifier quelque chose. Il entendit un « bunk » boisé, un « clunk » métallique, puis une espèce de crépitement incertain qui lui était familier. Au bout d'un instant, il le restitua. « Prenez les allumettes, Paul. » Des « Diamond Blue Tips ». Il ignorait ce qu'elle pouvait bien avoir posé d'autre au pied du lit, mais l'un des objets était une boîte de « Diamond Blue Tips ». Annie se tourna vers lui et sourit de nouveau. Quoi qu'il fût arrivé, sa dépression apocalyptique avait passé. Elle repoussa une mèche rebelle derrière son oreille avec un geste de petite fille. Il paraissait d'autant plus déplacé que ses cheveux sales avaient une sorte de demi-éclat terne.
Demi-éclat terne ? Oh, mon vieux, faudra te souvenir de celle-là. Elle n'est pas à demi bonne. Ça y est, je suis pété maintenant. Tout ce qui est arrivé avant n'était rien que le prologue de cette saloperie. Hé, mon lapin, voici le plat de résistance. Oh merde, je me suis fait baiser, mais cette fois-ci, c'est le bout de la fin, clair comme de l'eau de roche. Ça démarre sur une vague d'un kilomètre de haut dans une putain de Rolls. Par quoi dois-je commencer, Paul ? Les bonnes nouvelles ? Ou les mauvaises ?
Les bonnes d'abord, réussit-il à dire avec un grand sourire niais. Je parie que les mauvaises, c'est la fin du feuilleton. Hein ? Je parie que le livre ne vous a pas tellement plu. Hein ? Trop bête. Mais pourtant essayez. Ça commençait même à marcher. J'étais sur le point de... Vous savez, ça prenait tournure.
Elle lui adressa un regard plein de reproches.
« J'adore ce livre, Paul. Je vous l'ai dit et je ne mens jamais. Je l'aime même tellement que je ne veux pas en lire une ligne de plus tant qu'il ne sera pas fini. Je suis désolé si ça vous oblige à mettre vous-même tous les N manquants, mais c'est comme si je regardais en cachette. »
Son grand sourire niais s'agrandit encore. Il se dit qu'il allait finir par lui faire le tour de la tête,
qu'il allait former un nœud coulant et lui couper le cigare, qui tomberait tout seul par terre. Peut-être même dans le bassin posé juste à côté du lit. Tout au fond de son esprit, dans quelque obscur recoin, que n'avaient pas encore atteint les effets de la drogue, des sonnettes d'alarme retentissaient. Elle adorait le livre. Ce qui signifiait qu'elle n'avait pas l'intention de le tuer. Quoiqu'elle mijotât, elle n'avait pas l'intention de le tuer. Et s'il ne s'était pas complètement trompé sur le compte d'Annie, cela voulait dire que ce qu'elle lui réservait était encore pire. La lumière de la chambre ne lui paraissait plus sinistre, mais au contraire merveilleusement pure, merveilleusement pleine d'un charme fantastique voilé de gris. Il imaginait des grues se profilant fantomatiques
dans une brume couleur de plomb, immobile sur une patte dans le silence, au bord d'un lac de haute montagne. Il imaginait les reflets de Mika dans les rochers dépassant des printanières prairies d'alpage, reflets issurtes de verre vernissé. Il imaginait des gnomes débordés d'occupation se dandinant à la file indienne pour aller travailler sous les feuilles du premier lierre, encore brillant de rosée dans cette lumière.
« Ben mon vieux, qu'est-ce que t'es stone ?» se dit-il avec un petit rire.
Annie lui répondit par un sourire. « La bonne nouvelle, dit-elle, c'est que votre voiture a disparu, Paul. »
Je savais qu'il faudrait une tempête comme celle-là pour en être débarrassé, et encore je n'en étais pas sûr. Les crues du printemps ont emporté ce sale oiseau de Pomeroy, mais une voiture est tout de même plus lourde qu'un homme, non ?
Même un homme, plein de biscornouilles comme lui.
Mais la tempête s'est ajoutée à la fonte des neiges, et le tour a été joué.
Plus de voiture ! Ça, c'est la bonne nouvelle.
Que... Faiblement, les alarmes sonnaient encore. Pomeroy. Il connaissait ce nom, mais n'arrivait pas à le raccrocher à quelque chose. Puis la mémoire lui revint. Pomeroy, feu, Andrew. Pomeroy, 23 ans, de Cold Stream Harbor, État de New York, dont le cadavre mutilé a été découvert dans le parc naturel de Greeder. Où que fût le dit parc naturel.
Écoutez, Paul, reprit-elle du ton affecté qu'il connaissait si bien, pas besoin de faire le modeste. Je sais que vous savez qui était Andy Pomeroy, parce que je sais que vous avez lu mon livre.
Je suppose que d'une certaine façon j'espérais que vous le liriez.
Sinon, pourquoi l'avoir laissé traîner ?
Mais j'ai pris le moyen d'en être sûr de tout.
Et ce qui est sûr, c'est que tous les fils ont été cassés.
Les fils ? Fit-il d'une petite voix.
Eh oui, j'ai lu une fois dans un livre comment faire pour vérifier que quelqu'un n'a pas fouillé dans vos tiroirs. On colle un fil très fin en travers de chacun, et si on en trouve un de cassé lorsqu'on revient, eh bien, on comprend. Voyez-vous ? On sait que quelqu'un l'a ouvert. Vous voyez comme c'est facile ?
Oui, Annie. Il l'écoutait, mais en réalité, il avait surtout envie de s'éclater sur cette merveilleuse qualité de la lumière. Une fois de plus, elle se pencha sur les objets qu'elle avait déposés au pied du lit. Et une fois de plus, il entendit le clang, clang, assourdi du bois cognant contre un objet métallique. Puis, elle se retourna, chassant d'un air absent la même mèche rebelle.
C'est ce que j'ai fait avec mon livre. Simplement, je ne me suis pas servi de fil, mais de cheveux à moi. Je les ai collés en trois endroits différents entre les couvertures, et lorsque je suis rentré ce matin, très tôt, sans faire de bruit, comme une petite souris pour ne pas vous réveiller, les trois fils étaient cassés. C'est comme ça que je sais que vous avez lu mon livre.
Elle se tut et sourit.
C'était de la part d'Annie un sourire qui se voulait séduisant. Mais il avait aussi quelque chose de désagréable, qu'il ne pouvait définir.
Ne croyez pas que j'ai été surprise. Je savais que vous aviez déjà quitté la chambre.
C'est ça, la mauvaise nouvelle. Cela fait un bon moment que je suis au courant, Paul.
Il aurait dû se sentir en colère et épouvanté, songea-t-il.
Elle savait. Elle avait su presque d'emblée, semblait-il. Mais il n'éprouvait rien d'autre que cette euphorie dans laquelle il baignait, rêveur. Et ce qu'elle racontait était loin de lui paraître aussi important que la glorieuse montée de la lumière alors que pointait l'aube.
Mais, reprit-elle du ton de quelqu'un qui revient aux affaires sérieuses, nous parlions de votre voiture.
J'ai des pneus cloutés, Paul. Et là-haut, dans ma cabane, j'ai un jeu de chaînes à neige. Hier, en début d'après-midi, j'ai commencé à me sentir beaucoup mieux. J'ai passé presque tout mon temps là-haut, à genoux, à prier ardemment. Et la réponse est venue. Comme cela arrive souvent. Et elle était très simple. Ce qui arrive aussi souvent. Ce que l'on offre au Seigneur en prière, Paul, il vous le rend au centuple. J'ai donc mis les chaînes et je suis revenu ici en faisant très attention. Ce n'était pas facile et je savais que j'aurais pu avoir un accident en dépit des pneus à clous et des chaînes. Je savais aussi que dans cette région perdue, avec ses routes enlacées, il n'y a jamais d'accident sans gravité. Mais je me sentais bien dans ma tête, car je me sentais en sécurité, exerçant la volonté du Seigneur. « C'est très édifiant, Annie, » coassa Paul. Elle lui jeta un regard où, pendant un instant, se mêlèrent de la surprise et une pointe de suspicion. Puis elle se descendit et sourit.